Médien.
Média. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on parle de ces parcours qui ne sont pas forcément tracés, qui laissent place à finalement aux surprises, aux belles surprises de la vie et qui cassent un petit peu aussi ces principes de la programmation, de programmer sa vie, de tout programmer, de tout anticiper. Voilà, un petit peu de tawakkul ala Allah, c'est aussi très très bien. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Zinarel Barada, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Chabark Lalazina.
Très bien, alhamdoulilah.
J'adore ce prénom, j'adore ton prénom.
Merci beaucoup, moi aussi je l'aime bien parce qu'il est plutôt rare.
Il est rare, absolument. Il a une histoire en fait ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, mes parents voulaient appeler ma sœur aînée Zina et puis finalement elle a été appelée Kenza. Et donc c'est moi qui ai eu ce prénom qui était le prénom de la fille de grand ami de mes parents qu'ils aimaient beaucoup.
Ok.
Et donc voilà.
En tout cas, il te va très bien.
Tu
le portes très bien.
Merci.
Alors Zina, toi tu as eu un passage bien sûr par le salariat, YEC.
Oui, tout à fait.
Une
15
bonne...
ans dans le salariat
15...
dans l'industrie pharmaceutique.
Ok. Et puis là aujourd'hui, tu es dans quelque chose de complètement différent, c'est tu accompagnes les gens à apprendre à négocier.
Tout à fait.
Alors, ok,
oui.
Le bond de l'industrie pharmaceutique à la négociation, comment tout ça s'est fait ? Est-ce que tu peux me raconter ?
Oui, bien sûr. Alors, en fait, moi, j'ai eu donc une carrière dans l'industrie pharmaceutique pendant 15 ans en multinationale entre Paris, Casa et Londres. Et à Londres, en fait, j'ai toujours été sur des postes marketing et commerciaux. Mmh. Et à Londres, j'ai eu l'opportunité de passer sur un poste de formation des équipes commerciales. Donc Global Capability Lead pour les pays émergents. Et en fait, on avait identifié un manque ou un besoin des équipes qui visitaient les pharmacies, les grossistes et les distributeurs. On avait identifié un besoin en négociation et j'avais fait appel à Scott Work pour être mon partenaire global pour m'accompagner dans ce gros projet de formation des équipes à travers le monde. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu Scott Work. Donc, à la base, j'étais leur cliente quand je travaillais chez GSK à Londres et j'ai été tellement impressionnée par... La méthode d'abord d'apprentissage, l'énergie de mes équipes dans les salles, par les formateurs eux-mêmes, j'ai vu le retour sur investissement par la suite, etc., toutes les activités. J'ai tellement été impressionnée par tout ça qu'une fois que j'ai décidé de quitter l'industrie pharmaceutique et passer le Covid et tout le reste, et que je me suis posée, j'ai réfléchi à quoi faire, et ben voilà, Scott Work est venu comme une évidence.
La formation,
donc,
en fait.
J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé en disant « Je veux bien ouvrir votre filiale au Maroc, comment on peut faire ?»
Ah, excellent.
C'est comme ça que l'aventure a démarré. Donc, j'ai d'abord été leur cliente.
Ok.
Et ensuite, maintenant, je suis leur partenaire et je développe le Maroc et le Maghreb. Voilà.
Ok. Et pourquoi tu as quitté l'industrie pharmaceutique ? Qu'est-ce qui s'est passé avec la Covid ?
L'industrie pharmaceutique, c'était...
Pourtant, c'était vraiment la bouée de sauvetage pour beaucoup, en fait. Justement, on idéalisait, on presque idolâtrait cette industrie pendant cette période.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, moi, l'industrie pharmaceutique, je vais dire, je suis arrivée par hasard, encore que moi, je dis qu'il n'y a pas beaucoup de hasard dans la vie.
Ouais.
En fait, je dis, je suis tombée dans le chaudron quand j'étais grande. Je le dis souvent en rigolant, mais c'est pas faux parce que, en fait, au départ, c'est vrai que ça a été un hasard. Où j'ai fait un stage, parce que je pensais que cette industrie pharmaceutique était réservée aux scientifiques. aux médecins, aux pharmaciens, etc. Et moi, je n'ai pas une formation scientifique à la base du tout. J'ai une formation en gestion, spécialité marketing. Et en fait, une fois que j'ai fait ce premier stage après ma maîtrise, eh ben, je me suis spécialisée en master. J'ai un master spécialisé en marketing pharmaceutique. Et ensuite, s'en est suivi un deuxième stage encore chez Sanofi à Paris. Et de là a démarré ma carrière ensuite chez Sanofi au Maroc. Et j'ai fait deux autres multinationales, MSD et GSK. Donc au départ c'était vraiment une conviction et ben petit à petit en fait moi-même j'ai évolué et je me rendais compte que ben, c'était une industrie qui me parlait moins parce que moi-même je consommais plus de médicaments, je me soignais de manière naturelle, je consommais de l'homéopathie et les choses, Diana, je me soignais avec les remèdes de grand-mère, etc. Et je sentais qu'il y avait un décalage complet entre ce que j'étais devenue et mon métier, quelque part. Donc petit à petit, je me suis dit, je n'ai plus d'alignement avec ce que je fais, même si j'étais complètement... C'est pour ça aussi que j'ai bifurqué vers la formation que je suis sortie. Je suis sortie du marketing et du commercial pur où j'étais dans la vente. Et après, j'ai bifurqué vers la formation. Et ensuite, quand s'est présentée l'opportunité de quitter, j'ai sauté dessus parce que c'était justement une réflexion qui s'était faite sur plusieurs années. Et donc voilà. Et puis après, le Covid a fait que j'ai réfléchi. Je savais exactement ce que je voulais plus. Et en posant avec moi-même, etc., j'ai compris qu'est-ce que je voulais. Je voulais pas m'éparpiller, je voulais rester sur quelque chose de très centré, etc., et d'être dans le domaine de la formation et uniquement la négociation, donc dans l'hyper-spécialisation. Me convenait bien. Donc,
alors, on va arriver à ce point parce que
de ma vie, maintenant plus entrepreneuriat, etc. Donc, ça me convenait bien.
Alors, on va arriver à ce point-là qui est la négociation, oui. Cette hyper spécialisation. Mais si tu le permets, on revient à cette période où finalement il y avait tout ce questionnement, où il y a cette perte d'alignement, etc. Parce que souvent dans les échanges que j'ai pu avoir, c'est jamais en fait une réflexion qui commence à un point A et qui se termine à un point B sans interruption. C'est pas une ligne droite, en fait, cette interrogation.
Complètement. En fait, moi, le déclencheur, donc comme je vous ai dit, c'était moi qui commençais à plus consommer de médicaments et à me soigner différemment. Donc ça a été le déclencheur. Et ensuite, vraiment, ce qui a été le vrai déclencheur, j'avais été contactée par un chasseur de tête qui voulait me placer chez les pétroliers. C'était un changement de nom, etc. Et puis ils avaient besoin de quelqu'un en marketing, donc j'avais passé tous les entretiens, etc. Et puis ensuite, je me suis posé la question. Je me suis dit, si je bouge de l'industrie pharmaceutique et aujourd'hui je me dis, ça me correspond pas. Ça ne me correspond plus et que je vais chez des pétroliers, est-ce que je vais me sentir mieux? Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que ça n'allait pas forcément être le cas. Et en fait, la réflexion a continué dans ce sens. Donc après, il y a eu l'opportunité londonienne qui s'est présentée. Et ça, il était hors de question que je dise non. Et j'ai bien fait parce que ça a été une expérience magique et vraiment super à tout point de vue, qui a duré 4 ans, etc. D'un point de vue personnel, professionnel, c'était vraiment super. Et ensuite, il y a eu aussi une expérience à l'UNICEF à Abidjan. Donc j'ai été envoyée par GSK ou détachée par GSK pour travailler à l'UNICEF à Abidjan. Donc ça aussi, ça a été une expérience magique à tout point de vue. Et donc voilà. Et puis une fois que tout ça c'est fini, et surtout que l'opportunité s'est présentée, parce que voilà, comme je vous ai dit, l'opportunité de quitter, des fois, elle se présente dans ce genre de grands groupes, etc. Quand elle s'est présentée, j'ai sauté dessus tout de suite. Et ils avaient été même aussi surpris que ma décision était aussi rapide, en disant « Ok, c'est bon, je finis ma mission, je fais mon préavis et je m'en vais ». Ils ne comprenaient pas, ils me disaient « C'est pas possible, tu en as, tu sais ». Je leur dis « Mais non, moi je suis à Abidjan, je suis loin de tout ça, je ne sais pas ce qui se passe à Londres, ni à Singapour, ni à quoi que ce soit, je ne suis pas au courant des réorgues, de rien du tout ». Mais voilà, la réflexion avait duré sur... assez longtemps et je pense qu'il ne fallait pas rater le coche. Et c'est comme ça que je l'ai vu. Je me suis dit, bah, les opportunités de quitter, elles ne se présentent pas tout le temps. Donc, si je rate celle-là, il faudra en attendre une autre dans je ne sais combien de temps. Et ça a été la bonne décision. Je n'ai pas regretté une seconde, même si c'est tombé pendant la période du Covid et du confinement où j'étais sans activité, où c'était compliqué pour moi. C'est compliqué pour moi d'être sans activité.
Tu es rentrée au Maroc à ce moment-là ou tu étais...
Oui. Ouais, pendant le confinement, j'étais au Maroc, j'étais à Casablanca, ouais. Donc j'étais de retour après 4 ans de vadrouille. Même si c'était difficile pour moi d'occuper mes journées, etc., que j'avais pas d'activité, que je réfléchissais, ben j'ai pas regretté une seule seconde en me disant ah c'est quoi cette connerie que j'ai fait, pourquoi j'ai quitté, etc. Et après, il fallait juste se poser, laisser décanter pour savoir quelle était la prochaine aventure. Voilà.
En fait, c'est ça qui est en fait la clé, c'est que quand on est dans les mauvais espaces et dans les mauvais moments et qu'on se dit est-ce que j'aurais mieux fait de rester là où j'étais et qu'on réalise que non, même quand on va mal ou même quand la situation n'est pas, l'environnement n'est pas favorable, dans ton cas avec la pandémie, pas d'activité, c'est là où on se dit finalement j'ai vraiment fait le bon choix parce qu'on sait qu'on a fait un bon choix. Mais après, j'ai l'impression que c'est comme le mariage en fait. C'est comme quand on choisit quelqu'un, comme on dit, Blarbia, tu sais pas ce que le mgrfarat lalek. C'est la vie qui fait que tu découvres qui est ce partenaire ou cette partenaire de la vie. Et la même chose aussi, prendre une décision n'est pas une science exacte en fait. Et donc en fait, oui, il y a une forme de confiance. De certitude, c'est un grand mot, mais c'est ensuite les expériences de la vie qui nous démontrent que oui, on a pris la bonne décision de changer, de faire, de prendre telle décision à ce moment-là.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut se faire confiance pour suivre son intuition. Je pense qu'il y a une part d'intuition. Et si on a assez confiance en soi, on se dit il faut la suivre. Et moi, je sais que dans la vie en général, des fois, on hésite entre deux ou plusieurs choix. Moi, je sais que quand je suis dans ces formes d'hésitation, ce qui peut m'arriver souvent pour des petites choses ou des plus grandes choses, une fois que j'ai pris ma décision, ça y est, je ne remets plus en cause le choix parce que c'est ça qui est compliqué. Oui. Même quand on prend le choix de se dire « Ah oui, mais si, nanana ». Moi, une fois que ça peut être difficile avant, mais une fois que je le prends, ça fait. Je me dis « Hop, on fait confiance et on avance ». Et en fait, moi, ce qui me fait, à chaque fois, quand je me pose et je réfléchis, je me dis « Voilà comment est arrivé Scott Ward », quand je réfléchis à tout le cheminement qui m'a mené à être la fondatrice de Scott Ward au Maroc, je me dis, ça a été une succession de choses, mais vraiment incroyables, qu'on peut appeler des hasards ou plein de choses. Ça a été justement Londres, le changement de poste, ce fameux boss de mon boss qui arrivait du Brésil et qui avait travaillé avec Scott Work là-bas et qui disait Zina, contacte-les ici pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer. Ensuite, que je sois chef de ce projet, que j'assiste moi-même à plusieurs formations, etc. Et puis l'alignement de toutes ces choses-là. Ensuite, il y a eu le Covid, le confinement, etc. Et puis aussi l'audace de prendre mon téléphone un jour et de rappeler les gens en leur disant « Oui, voilà, ce business au Maroc, est-ce que vous pensez, est-ce que je peux être votre partenaire ici ?» Donc ça a été une succession de choses qui font que... Et puis, bon, aussi toute cette expérience dans l'industrie pharmaceutique, c'est 15 ans qui ont été extraordinaires, etc. Et puis avoir le courage de fermer cette page pour en ouvrir une autre, même si au moment où je l'ai fermée, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire après. Mais
alors justement,
il faut avoir ce courage-là.
C'est ça, c'est que pendant tout ton parcours, quand on dit, et j'ai souvent entendu des spécialistes en parler, c'est avoir un plan de carrière et avoir des milestones, vraiment, où j'arrive là et ensuite ça va être ça et ensuite je dois atteindre ça. J'ai l'impression que toi, tu n'étais pas du tout dans ce cas de figure.
Alors ça me fait doucement rire parce que effectivement, quand on est dans ces grandes boîtes et dans ces grands groupes, on est au final un matricule. C'est-à-dire chez GSK, mon dernier employé, on était 110 000, 115 000 à travers le monde. Donc j'étais un matricule. Au final, on n'est pas plus que ça. Et on nous fait ça. Moi, aujourd'hui, quand je regarde les plans, les business plans sur 5 ans, les trucs machin, je me dis, mais c'est pas. Surtout après la pandémie du Covid, je me dis, mais comment on peut planifier des choses sur 5 ans, sur 10 ans, des trucs. Je me dis, vraiment, ce genre de trucs, ça me fait halluciner complètement aujourd'hui. Et par rapport à ça, bien sûr que moi j'étais là-dedans, et ne serait-ce que quand j'ai quitté Londres juste avant de partir chez l'UNICEF à Abidjan, et ben j'avais préparé mon retour parce que Abidjan c'était une mission de 6 mois. Donc, je savais que je partais le 1er juillet, que ma mission finissait le 31 décembre, et ben avant de partir j'avais préparé le What's Next. Donc j'avais discuté avec des gens à Istanbul, à Singapour, j'avais regardé des postes à l'international, un éventuel retour au Maroc, un poste sur le Maghreb. Donc j'avais trois plans qui étaient qu'il fallait réactionner deux ou trois mois avant que je revienne. Il fallait que je rediscute avec ces gens, mais j'avais préparé ça avant de partir. Au final, je me dis, c'est cool, tout ce que j'ai préparé, il n'y a rien de tout ça qui est arrivé, il y a eu l'opportunité de quitter, et c'est comme ça que les choses se sont faites, etc. Donc les plans, ça fonctionne pas tout le temps.
Mais ça met de la pression sur tous ces jeunes en fait qui sont fraîchement diplômés, à qui on dit voilà, il faut absolument que tu aies ton plan de carrière clair devant toi, ta trajectoire, où est-ce que tu vas être dans 5 ans, où est-ce que tu vas être dans 10 ans. En fait, dans ton parcours, je me retrouve beaucoup aussi, parce que beaucoup de choses se sont faites par hasard. Pour moi aussi, et je même en interviewant souvent des coachs par rapport au plan de carrière, en pleine interview, je n'arrivais pas du tout à m'identifier en fait à leurs paroles.
Ouais. En fait, il faut, parce que une fois si on fait un plan, des fois on peut avoir des œillères et ne pas voir les opportunités qui peuvent se présenter, qu'elles soient en interne ou en externe. Moi, c'est vrai que j'ai fait 3 multinationales. Je suis restée assez longtemps dans chaque boîte où j'ai été, mais j'ai à un moment donné, par exemple, chez Sanofi, j'en pouvais plus et j'ai démissionné sans savoir ce que j'avais derrière parce que voilà. Ensuite, chez MSD, il fallait que j'écoute. Là, par contre, j'ai été appelée par GSK et je me suis dit, ok, là, c'est l'opportunité de quitter et d'aller monter un autre projet là-bas. Et puis ensuite, quand Londres s'est présenté, c'est censé être pour 9 mois et ça s'est transformé en 4 ans, j'ai sauté sur l'occasion aussi. Une fois que j'étais à Londres, on m'a proposé un autre poste dans la formation, même si moi, ce n'était pas mon savoir-faire. Je me suis dit, ok, allez, on va accepter le challenge. Et c'est comme ça que justement, j'ai connu Scott Work, et que Scott Work, je les ai rappelés un an après, et que voilà, et que les choses se sont faites. Donc si on a juste un plan, et en fait, les plans de carrière, moi je dis, c'est un peu du n'importe quoi, parce que d'abord, les gens avec qui vous discutez ça à la base, que ce soit les RH ou les DG, eux, ils sont amenés à changer, ils ne sont pas éternels, à part dans les boîtes familiales ou autres, et encore, tout ça, c'est amené à changer. Donc, il n'y a rien qui est complètement figé dans le marbre. Et effectivement, en interview, on vous pose ce genre de questions, etc. Mais bon, je pense que ça n'a pas... À moins, oui, de voir l'ambition des gens, etc., de voir s'ils sont ambitieux, qu'ils vont un peu plus loin que le bout de leur nez. Mais bon, tout est amené à changer, je pense.
Absolument.
Les boîtes elles-mêmes, elles changent.
Elles changent, c'est
ça. Puis, oui, voilà.
Alors, cette hyper-spécialisation dans la négociation.
Oui.
Alors, pourquoi ? Est-ce que ça vient d'un... Est-ce que ça a été un besoin personnel, déjà ?
Alors, non, ça n'a pas été un... Alors, le besoin de ne pas s'éparpiller, de rester sur quelque chose de très ciblé, oui, ça c'était une volonté. Après, la négociation, c'est parce que Scott Work est hyper spécialisé. Scott Work sont les leaders mondiaux de la négociation depuis 50 ans. C'est une boîte qui a été fondée en 1975. Donc, on a fêté les 50 ans cette année, en mai, tous ensemble à Glasgow. Et on ne fait que ça, c'est-à-dire en tant que Scott Work, si vous me demandez une formation en technique de vente, par exemple, en tant que Scott Work, je ne la délivre pas.
Okay.
Mais par contre, je vous fais un super training en technique de négociation avancée sur 2 jours et demi avec une méthodologie qui est hyper rodée et qui est la même qu'on teach partout à travers le monde, etc. Donc ça, c'est Scott Work qui est hyper spécialisé, ça c'est leur volonté. Et donc moi d'abord, comme j'avais testé Scott Work, j'étais convaincue de la société en elle-même et du thème négociation, parce que c'est vrai que quand on parle de négociation, on se rend compte que la négociation est partout, d'abord, qu'on négocie tout le temps à longueur de journée, que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue personnel, avec ses enfants, avec son mari, avec ses parents, etc. Et que la négociation est à tous les niveaux de l'entreprise aussi. Ça va vraiment du top management, middle management, sur le terrain, au niveau des achats, etc. Donc, toutes les fonctions aussi sont amenées à négocier à plus ou moins grande échelle, à plus ou moins gros contrats, etc. Mais la négociation fait partie de notre quotidien.
Ouais. Alors, c'est quoi la différence entre négocier et marchander ?
Ah, ch'tara. Nous, les Marocains, on a l'impression qu'on est des bons négociateurs, plus que qu'un ch'tro pour les fruits, pour les légumes, pour les tapis, pour un salon, pour acheter une maison, etc. Donc, on a l'impression qu'on est de bons négociateurs. La différence, c'est que ch'tara, le marchandage, en général, c'est un seul paramètre qui, en général, est le prix. Donc, le vendeur, il veut vendre au prix le plus haut et vous, en tant qu'acheteuse, vous voulez acheter au prix le plus bas. Et donc, en général, vous discutez sur une seule variable qui est le prix. Chacun va tirer de son côté et puis voilà, vous allez réussir à avoir un deal au milieu ou un peu plus du côté du vendeur ou un peu plus du côté de l'acheteur. La négociation, c'est différent parce qu'il faut au moins deux variables pour pouvoir négocier, parce que la négociation est un processus d'échange. Il faut être dans un mindset
win-win.
D'échange et dans un mindset gagnant-gagnant, tout à fait. Donc si vous n'êtes pas dans une logique de donner quelque chose pour pouvoir recevoir autre chose de plus important pour vous en retour, vous n'êtes pas dans de la négociation. À ce moment-là, vous êtes que sur...
Que sur ch'tara.
La différence, c'est ça. Donc, la négociation, c'est au moins deux paramètres pour que vous puissiez être dans ce processus d'échange.
Ouais.
Et un des paramètres, en général, est le prix, mais il peut y en avoir plein d'autres. Ça peut être des quantités, des délais de livraison, plein de choses, je sais pas, des couleurs, des tailles, différentes choses. Et vous négociez tout ça petit à petit.
Et comment ça va aujourd'hui, Zina?
Écoutez, ça va bien, contente de développer Scott Work au Maroc. Voilà, donc là on est sur la troisième année, donc ça commence à apprendre, alhamdoulilah, on commence à se faire connaître, du bouche à oreille, à recevoir des témoignages aussi de dons de participants, etc. Donc en train de développer Scott Work Morocco, doucement mais sûrement.
Zina Barada, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Yasmine, ça a été un plaisir.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.